Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
J'aime la folie. Je suis grandement épris de la folie. Je fais des cures de folie et je m'en trouve bien. Je vous les recommande.
Olivier Martin-Salvant et Philippe Fosch, bonjour. Vous présentez Jacqueline écrit d'art brut. Ce spectacle a été créé à partir des textes d'art brut. Comment êtes-vous arrivé aux écrits bruts et quel a été le déclencheur de la création ?
Le point de départ de ce spectacle, c'est une rencontre avec Valère Novarina, un auteur franco-suisse qui a une manière, on va dire, assez brute d'écrire. Lui qui a eu un déclic pour son écriture très jeune quand il a rencontré Jean Dubuffet, qui est donc celui qui a découvert tout le courant d'art brut. Au début, il y avait une telle nécessité pour lui d'écrire, même s'il avait fait l'école. Jean Dubuffet lui a dit « ton écriture ressemble » aux écrits d'art brut, qu'il ne connaissait pas vraiment. Il a découvert ses écrivains et ses écrivaines d'art brut, qui sont souvent des gens qui ont été internés dans des centres psychiatriques. C'est né, même si Jean Dubuffet n'aime pas dire ce terme-là, mais c'est né de l'art-thérapie, on va dire. C'est né d'un atelier d'écriture ou un atelier de création. On connaît beaucoup l'art brut par la peinture et la sculpture, mais on connaît moins par les écrits. Grâce à Valère Novarina, j'ai découvert ses écrits d'art brut. Moi, ça a été un choc très fort, et très vite, j'ai amassé beaucoup de textes, et j'ai fait l'adaptation des textes avec Philippe Fosch. Ça a été une rencontre déterminante parce que je pensais le faire avec un musicien, mais j'ai rencontré des gens de la musique improvisée, la musique jazz, et c'est souvent dans des cases. Et en fait, sur ce spectacle, je voulais pas être vraiment dans une chose nommable ou qu'on puisse définir. Il me fallait un animal. Et donc, j'ai découvert Philippe Fosch en train de taper sur des cailloux et je me suis dit, c'est lui. Et donc, la puissance de Philippe Fosch, ça a été que je lui lisais des textes et les textes où il se mettait à jouer, c'est qu'ils avaient une résonance chez lui. Il sentait, comme tu me disais, en trois dimensions. Ou...
oui, disons qu'on sentait la puissance de la matière qui se révélait en fonction des textes. C'est-à-dire que, comme si dans chaque texte, il y avait quelque chose de ce que j'appelle, moi, préhistorique. Il me lisait les textes et moi, je rêvais dessus, je jouais. Ça nous a permis d'abord de nous rencontrer et puis de faire une sélection parce que Olivier, depuis ses 15 années de recherche et travail, avait accumulé pas mal de textes.
Oui, j'en ai emmagasiné en Suisse, en Belgique, en France, à Sainte-Anne. Très vite, on m'a dit que les institutions n'allaient pas forcément m'aider à découvrir des textes d'art brut parce qu'ils sont tellement dans leur temps et très très pris pour découvrir de la peinture, de la sculpture. Et donc moi, en tant que comédien qui ai travaillé sur Rabelais et Novarina, c'était un chemin que je faisais, et même de pionnier de la recherche des écrits d'art brut. Et ça a été une passion dévorante, en plus de préparer un spectacle. Et donc, depuis 4-5 ans avec Philippe, on s'est beaucoup vu pour sédimenter en fait, le travail. La moitié des textes qu'on dit sont soit belges, soit français, soit suisses. Ils ont joué à domicile il y a 2 semaines en Suisse, ça a été très puissant. Et avec Philippe, on se disait, c'est vrai qu'il a fallu descendre les pistes noires, troisième dame, d'éprouver beaucoup, beaucoup les pistes noires, comme ça, de ces textes qui sont d'une sorte de poésie, poésie du texte, poésie de mots, une poésie orale, la déstructure du langage. Mais en même temps, il y a une histoire, donc il a fallu que nous, on comprenne l'endroit de la parole, leur endroit d'adresse. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, moi, près de 12 ans. Puis vraiment, on va dire, concrètement sur ce projet, ça fait 4 ans qu'on s'y attelle avec Philippe.
Dans le processus de recherche, on a pris le temps de se rencontrer, de jouer ensemble ces textes, à raison de 2 résidences par an ou 2 et demi, ce qui permettait vraiment de déposer les choses, de chasser les fausses bonnes idées, que les choses soient essentielles et éviter, ce que je dis toujours, que la musique soit un accompagnement. Il fallait vraiment éviter que ce désir de jouer ensemble soit quelque chose de gratuit. Donc il fallait épuiser nos fantasmes et arriver dans quelque chose qui est réel. Et c'est pas que nous, c'est aussi les autres qui nous donnaient ça. Et notamment les compagnons de travail d'Olivier, qui sont Yvan Cléda et Corinne Petitpierre, qui sont des éléments moteurs essentiels, qui ont créé la scénographie et les costumes. La cage et le costume sont des éléments centraux dans la scénographie et dans le pourquoi on est ensemble. Cette cage sonne, elle est pleine de micros, de capteurs, et donc c'est un instrument aussi. C'est une libération parce que c'est tout d'un coup tout un monde qui s'ouvre. Je joue des archers sur la cage, je tape avec mes pieds, ça fait une grosse caisse. Donc sur le plan du timbre, c'est très très juste. C'est pas anecdotique comme son. Je joue avec des pierres, avec des métaux, des plaques de métal, des archers, des pots aussi, des pots sur lesquels je gratte.
Il y a un personnage qui m'a beaucoup inspiré, le travail du costume que j'ai fait avec Corinne Petitpierre. J'ai pensé à Marcel Bascoulard, qui était donc un marginal de la ville de Bourges, qui s'habillait de ses propres créations de robes. Il se disait pas que c'était s'habiller en femme, il sentait que c'était l'habit fort. Il se sentait puissant dans ces robes-là. Il a conçu ces robes et il en faisait des photos. C'est pour ça qu'on a des traces, en fait. Il échangeait aussi ses dessins pour qu'on fasse des photos de lui. Et ça m'a beaucoup inspiré. Moi, j'en ai jusqu'à 6 sur moi. Et à un moment, il arrive ce sorte de costume monde, qui est une sorte de grand poncho. J'ai travaillé avec Benjamin Lazare, qui m'a permis de comprendre que dans la contrainte naît la liberté. C'est des contraintes assez fortes, hein. Le théâtre baroque, pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui ne le connaissent pas, c'est un corps stylisé, une prononciation restituée du XVIIe, les rouets, les ânes, et jouer face publique parce que la bougie. Donc ça, c'était intéressant, que mon premier projet très important a été un carcan comme ça. Pour trouver la liberté là-dedans, il faut s'accrocher. Et en fait, juste derrière cette expérience avec Benjamin Lazare sur l'extrême stylisation de la langue, tout ça, je suis parti chez Valar Novarina, où lui, il parle d'un acteur tuyau, que nous, on est juste une catapulte à mots, en fait, du producteur au consommateur. Nous, on est juste là pour faire passer, on est des livreurs de mots, quoi. Et donc, ce Valar Novarina et ce Benjamin Lazare, où on pourrait dire que tout les oppose, et au contraire, en fait, Novarina, d'une manière ou d'une autre aussi, il y a quelque chose d'assez brut, où il faut donner comme ça le langage, c'est-à-dire que... Il me disait, vas-y, jette-le, mangeons-nous les mains, nous les humains. Vous voyez, donc moi j'étais sur cette allitération à un humain, et tout d'un coup je me rends compte que les gens comprennent quelque chose. Prendre ces textes illisibles et de les amener au plateau, qui deviennent audibles, même si c'est une expérience du lâcher-prise, ça a été important. Benjamin Lazare me disait, n'aie pas peur de faire venir les gens à toi, de laisser du creux. De toute façon, au théâtre, ce qui est magique, c'est qu'on demande aux gens de faire un pas. Et en fait, le théâtre aujourd'hui, c'est une des utopies où on peut encore s'ennuyer, un peu rêvasser, repartir. Cet endroit où on demande du lâcher prise. Et cet endroit de poésie, cet endroit où on peut être touché par rien, quoi. Une ombre d'une main sur le mur du fond d'un théâtre. C'est ça que je trouve puissant, en fait. C'est une telle utopie que j'arrive même pas à y croire que ça fait des millénaires que le théâtre existe et qu'il en reste après nous. Il y en aura encore des millénaires qui passeront. Et ça, on pourra pas nous l'enlever.
Et du coup, à un moment donné, Jean Dubuffet, dans le manifeste de l'art brut, dit « On entend par art brut les ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique ». J'ai eu cette impression-là, que vous vous êtes entouré de gens qui étaient indemnes de cette culture à la mode.
C'est vrai que, en fait, on en rêve, ça c'est tout à fait juste ce que vous dites, d'être indemne de culture artistique, même si je pourrais dire que moi je viens pas d'un milieu où il y a eu la culture artistique, et que je fais une école privée, mais j'ai arrêté en troisième l'école, hein, j'ai tout de suite fait du théâtre. Donc évidemment, il y a quelque chose un peu d'art brut dans mon parcours aussi, de marginal, quoi. Hein. On va dire, maintenant, les parcours sont tellement normés que maintenant, des parcours atypiques qui sont la richesse de notre métier, par exemple en radio ou en musique ou théâtre, ou même dans les théâtres, les directeurs, maintenant, les gens sortent de grandes écoles. Et c'est vrai que les dialogues qu'on a avec les institutions ou avec les journalistes ou n'importe qui, quand c'est un parcours qui a vraiment parti, on va dire, dans la toundra et qui est reparti dans le désert, ben, y a quelque chose de très riche. Par exemple, les plasticiens, ils ont fait les beaux-arts, ils ont un savoir, ils ont toutes les connaissances, ils ont beaucoup de références. On a échangé sur Boltanski, sur Mona Hatoum, on a échangé sur Pistoletto, qui sont des artistes vraiment... assez branchés et surtout des sachants, on va dire. On a donc beaucoup de références, on n'est pas vraiment des artistes d'art brut, mais notre rêve, à nous, quand on a vu par exemple les acteurs de Catalyse, de Madeleine Loire, des acteurs handicapés, qui travaillent pas mal avec le TNB, ça a été une expérience très très puissante de les rencontrer, parce que quand on a voulu faire du théâtre avec eux, on s'est senti tout petit pour le coup. Eux, ils sont indemnes de culture artistique, sauf que maintenant, il y en a certains, ça fait 30 ans qu'ils travaillent avec Madeleine sur des textes, on a voulu les faire improviser sur leurs rêves ou sur leurs symptômes. À un moment, ils disaient de très beau texte, mais on s'est rendu compte, Madeleine Nord me dit, attention, c'est du Kafka, là. Donc évidemment, c'est très beau, mais c'est pas de eux. Donc ils ont tellement emmagasiné de matière, de littérature, qu'ils se sont, même nous, hein, on se constitue nous-mêmes des œuvres qu'on a pu porter, ça devient notre parole. Et donc voilà, ça veut dire que on rêve de ça. C'est-à-dire, quand on a vu ces acteurs-là, pour nous, c'était vraiment le summum. C'est ça qu'on voulait viser. Bon, je ne sais pas si on a visé ça, mais au moins, voilà, on est appelé par cette barre haute, comme Renaud Lavillenie, quand il voulait battre le record du monde. On n'est pas des artistes d'art brut, mais ce qui nous plaît très fort là-dedans, c'est leur extrême liberté et d'être hors cadre qui a permis qu'on on leur dise pas « Ah, ça ressemble à du Houellebecq ou à du machin » ou « Ça, ça a été fait dans les années 80 ». Eux, on leur a dit « Vous n'êtes pas dans la société ». Et ils n'étaient que dans leur pulsion créatrice. Tout le monde est créateur. Je veux pas y croire que même pour nous, des acteurs nous dit « Je suis pas un acteur créateur, moi je suis juste acteur ». Moi, je n'y crois pas une seconde. Chaque personne, vous voyez bien, les enfants, on les fait créer toute la journée et tout d'un coup, pourquoi ça se coupe? Il faut faire gaffe à son créateur.
Et flip, flop, flop, craquer de ses blancs et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pas ta boum, c'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et flip, flop, flop, craquer de ses blancs et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pas ta boum, c'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit. Et flip, flop, flop, craquer de ses blancs et vroom. Et tic, tac, toc, plouf, et oui, c'est pas ta boum, c'est la chanson des bruits. Et si le cœur vous en dit, chantons-la toute la nuit.
Quel lien on peut faire entre théâtre populaire et art brut?
Ah oui, citons le théâtre du peuple. Pour moi, c'est vraiment la grand-mère. C'est vraiment, il y a un truc comme ça de filiation. Moi, j'ai travaillé sous la direction de Pierre Guillois à partir de 2006. Les spectateurs, si on fait des spectacles qui sont pas bons, c'est comme si on insultait quelqu'un de leur famille. Donc moi, quand je croisais des gens qui me disaient « Faites attention, vous faites un beau spectacle », parce que ça fait 4 générations qu'on vient voir les spectacles, et nous, on va peut-être qu'une fois au théâtre, mais la fois où on y va, il faut que ce soit une expérience qui nous fasse résonner toute notre année suivante. Donc là, on sent qu'il faut pas faire n'importe quoi. Le théâtre du peuple, c'est-à-dire c'est vraiment le théâtre populaire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a les Parisiens qui viennent, il y a les artistes, et puis il y a vraiment les gens des Vosges. C'est vraiment très très bouleversant. En plus, ça joue pendant un mois et demi, je ne sais pas s'il faut imaginer. C'est-à-dire que maintenant, dans les théâtres, on réduit les séries à 2, 3 ou 4, voire 5 représentations. Eux, ils se disent, voilà, une création de l'écriture contemporaine, un mois et demi. Je ne sais pas si vous imaginez, et là-bas, bah, le théâtre est plein à craquer. On fait du théâtre public, hein. Donc moi, en fait, ça me fait beaucoup de mal quand on me dit que le théâtre n'est pas pour soi. Et en fait, pour l'art brut, il n'y a pas de possibilité de représentation. C'est que pour eux. Ils sont vraiment dans une démarche pure. Ils font une chose pour eux. Et si les gens viennent à voir leurs œuvres ensuite, bah, c'est possible, en fait. Comme moi, j'ai rencontré des artistes d'art brut qui vivent aujourd'hui, qui sont des centres internés ou ils sont dans des centres psychiatriques. Et eux, quand je leur dis « Tiens, je voudrais bien prendre un de tes textes » comme un jeune Sacha qui vit sur l'île d'Oléron qui a 15 ans, il parle pas et d'un coup il me fait l'image de la caméra. Et sa mère me dit, il aimerait que son texte il soit diffusé au cinéma. Au fond, il fait ça pour lui et en même temps, il aimerait le partager avec le plus grand nombre. Ce n'est pas du tout une question d'élitisme en fait. Par exemple, moi j'aime beaucoup Jean-Michel Basquiat et lui aussi se posait pas la question du support. Il prenait une porte, il prenait un bout de papier, du tissu et il dessinait dessus ou il peignait dessus. On peut avoir une discussion sur le fait que Jean-Michel Basquiat est un artiste d'art brut ou pas, mais moi je sais que j'ai la même émotion quand je vois une œuvre d'art brut que ses œuvres à lui. Donc en fait, c'est cette urgence et cette nécessité de raconter. Et en fait, pour moi, le populaire, c'est aussi quand on est enfant, qu'on raconte une histoire à son enfant. C'est ce premier geste-là. Donc pour moi, en fait, la représentation, qu'il y ait de l'élitisme ou des choses comme ça, c'est juste un détournement de ce qu'est vraiment le geste artistique, en fait.
Ce que je trouve aussi intéressant avec cette expérience de Jacqueline, c'est qu'il y a de la lumière, il y a du son, il y a des mots, mais en fait, il n'y a pas d'étiquette. C'est-à-dire que la lumière peut être un son, le son peut être un mot, et un mot peut être de la lumière. On est tous au bord les uns des autres, en fait. Et le théâtre, ça permet ça. Et ce n'est pas du tout hermétique, cette chose. Elle est par moments sinueuse, torrentielle ou sinueuse, ou complexe, dans le bon sens du terme, mais jamais hermétique. Et c'est vraiment simple, en fait. On n'est pas du tout conceptuel dans le sens fermé. Et on fait ça avec beaucoup d'animalité et de simplicité, je pense. Et c'est ça que j'aime, tout en manipulant des matériaux qui sont quand même sensibles. Quoi.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.